Bonsoir tout le monde. Alors, comme il y a eu un problème de photocopie ce soir, je n'ai pas pu photocopier. Alors, j'ai encore celle de la semaine dernière, quelques-unes, vous pouvez vous distribuer. Et nous sommes dans le Père et Credex, dans Sanhédrin, Daf Tzadik. Bon, vous vous rappelez qu'on avait parlé du problème de... Vous y êtes là tous ? Daf Tzadik, ceux qui ont des livres, hein, c'est-à-dire ceux qui n'en ont pas, je ne peux pas faire grand-chose. Il y a des livres là encore, il y en a encore plein, il y en a quatre, je vois. Je vois d'ici. Il y a quatre livres. Tu as un livre ? Non, c'est vrai que chez toi, c'est par cœur. Bon, on avait étudié ce que disait la Mishnah sur ceux qui n'ont pas part à la vie du monde futur. Ça s'appelle Elu, She'en, Lahem, Chelek, La'olam Haba. Et on avait compris que ne pas avoir part à la vie du monde futur, cela signifie refuser l'avenir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, par exemple, celui qui nie la résurrection des morts n'a pas part à la vie du monde futur, il n'a pas part à La'olam Haba. Alors, on avait compris, c'est quoi celui qui nie la résurrection des morts ? Il nie qu'il y a un sens à la vie. C'est-à-dire que si la mort est capable finalement de l'emporter, alors à quoi bon la vie ? Donc, si on est vraiment optimiste, on doit admettre la résurrection des morts. Vous vous rappelez de ça ? C'est ça le principe. On avait vu, ça marche même quand c'est fermé ? T'es sûr que ça va ?
Oui.
Bon, d'accord. Et donc, on s'était posé la question de... c'est quoi Ha'omer entechiyat ametim minatora, qui est celui qui affirme qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Et je me rappelle que la question qu'on avait posée, c'était comment se fait-il que si quelqu'un a une neshama et donc il appartient naturellement à Olam Haba, à cause d'une parole qu'il aurait prononcée, il aurait perdu son Olam Haba. Vous vous rappelez ce problème ? Le problème qu'on avait posé la dernière fois. Il n'est pas au dernier cours. Il n'est pas au dernier cours non plus. Bon, ça va. Vous voulez un conseiller conjugal ? Il faut vous arranger ça. Bon, mais... Bon, alors, un tout petit résumé. Vous vous rappelez, la toute première phrase de la Mishnah que vous avez devant les yeux, c'est « Kol Israël, yesh lahem, chelek, la'olam haba » Tout Israël à part Olam Haba. Donc le point de départ, le présupposé du peuple juif, est un présupposé optimiste par rapport à l'éternité. C'est-à-dire, tout le monde y a part. Tout Israël à part Olam Haba. Si on fait vraiment des efforts, on peut perdre sa part. Mais a priori, on y a part. Kol Israël, yesh lahem, chelek la'olam haba. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, le présupposé de départ de la théologie chrétienne, on avait vu, c'est exactement le contraire. Tous les hommes sont voués naturellement à la perdition éternelle. Et s'il y a un miracle, alors ils ont part au Olam Haba. Et c'est pour ça que le Olam Haba, pour eux, c'est une grâce. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez ce problème ? C'est que, nous devons savoir à quoi est-ce qu'on a une part naturelle ? Alors, dans la civilisation gréco-romaine, il est évident qu'on a part, a priori, au Olam Hazé. Le Olam Hazé est habitable, il est vécu par des hommes. Les hommes sont des ressortissants du Olam Hazé. Maintenant, le Olam Haba pose problème. Est-ce qu'on va l'avoir ? Alors, le monde gréco-romain a adopté une théologie qui le sauve de la perdition pour accéder à l'éternité. Pour Israël, c'est le contraire. Nous avons part au Olam Haba, c'est assuré, c'est donné, c'est juré, c'est promis. Mais le Olam Hazé, on va réussir ou on ne va pas réussir ? Il y a un problème. Et les Juifs ont tout un problème, comment faire pour accéder finalement au Olam Hazé ? Jusque-là, vous avez compris, c'est ça dont on a parlé la semaine dernière. On s'était posé le problème de savoir qu'il y a une contradiction dans les termes de la Mishnah. La première phrase de la Mishnah dit le contraire de ce que dit la deuxième phrase. La première phrase nous dit « Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba » Tout Israël à part au Olam Haba. Et la deuxième phrase nous dit Ve'elu she'en lahem chalek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas part au olam haba. Or, ce sont des juifs. Donc, il y a contradiction dans les termes. Est-ce que c'est bien clair ce que je veux dire là? Hein, vous avez compris la question?
Mais est-ce qu'à cause d'une faute, on peut s'exclure d'être en Israël? Puisqu'on nous dit tout Israël à part olam haba. Maintenant, si je ne fais plus partie d'Israël.
Alors, on peut dire ceux qui ont fait telle et telle chose ne font plus partie d'Israël.
Mais qu'a priori, tout Israël a fait olam haba.
Donc, on pourrait lire ça comme ça. C'est, on pourrait le lire de votre manière. C'est de dire tout Israël à part olam haba, sauf ceux qui n'en font pas partie. Mais alors, dans ce cas-là, ça serait une sorte de tautologie. C'est-à-dire, on définirait Israël comme étant celui qui a part olam haba. La phrase deviendrait absurde. Il y a une contradiction. On ne peut pas évacuer une contradiction simplement en disant que la question ne se pose pas. Mm-hmm. D'accord ? Il y a une contradiction, il faut donc donner une réponse. Vous avez compris la contradiction ? Mm-hmm. On a dit que tout Israël y a part, après on nous dit qu'il y en a qui n'ont pas part. Or, ce sont des Juifs. D'accord ? Quelle est la réponse qu'on avait donnée ? Docteur Douyev, il était là la semaine dernière, donc il doit savoir. Bon, ben là, oui, d'accord. Bon. Oui, bon, mais la réponse la plus originale.
La plus originale ?
Ah oui. La plus vraie, donc. Tout Israël ont part au Olam Haba, y compris ceux qui n'y ont pas part. Oui. Tout Israël a part au Olam Haba, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. C'est plus clair maintenant ? Ça rentre tout à fait dans la logique de la phrase. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Elle n'a pas l'air d'accord.
Non, je n'ai pas compris.
Alors ça, c'est une faute d'inattention. Je reprends. La première phrase nous dit « Kol Israël yeshlem chelek la'olam haba »« Tout Israël à part olam haba » La deuxième nous dit « Ve'elu she'en lahem chelek la'olam haba » Et voici ceux qui n'ont pas part olam haba. Or, ceux qui n'ont pas part olam haba font partie de tout Israël. Conclusion, tout Israël a part au olam haba, y compris ceux qui n'ont pas part au olam haba. C'est clair maintenant ?
C'est clair.
Ah ben voilà, je l'avais dit une fois pourtant. Hein ?
Tout redevient positif.
Tout redevient positif. Maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire qu'une contradiction logique. C'est-à-dire, au niveau de la syntaxe de la phrase, ça marche. Maintenant, il y a un problème logique. Comment est-ce qu'on peut avoir part au olam haba alors qu'on n'y a pas part ? D'accord ? Ça, c'est un problème secondaire. Mais il faut y répondre aussi. On avait répondu que tout Israël, en fin de compte, a part au olam haba. C'est-à-dire, puisque je suis fils d'Israël, on ne me laissera pas tranquille, on m'embêtera jusqu'à ce que je sois méritant. C'est-à-dire, si je ne suis pas méritant du olam haba, eh bien, on me cassera les pieds jusqu'à ce que je sois méritant. Par exemple, les kabbalistes, ils ont pour ça l'idée du gilgoul. C'est quoi le gilgoul ? Eh bien, tu n'as pas mérité une première fois, ben, rebelote. Fais rebelote. Et tu vas donc mériter à la deuxième fois. Pourquoi ça ne marche pas la deuxième fois ? La troisième fois. L'idée du Gilgoul, c'est une marloquette. Vous avez corde ? Oui, bien sûr. Par exemple, rappelez-nous ça, Diagone n'accepte pas l'idée du Gilgoul. Il le nie, ça. Vous avez qu'à voir dans Shelot Utshuvot Maharalbar de Rabbeinu Levi Ibn Haviv, Siman Chet, il parle de ce débat. Alors, chez les kabbalistes, c'est admis. Chez les Baalei Apshat, c'est pas admis. Rabbeinu Avraham Ben Arambam, il refuse l'idée du Gilgoul. Il y a tout un débat, si ça vous intéresse, chez Rabbi Yitzhak Avrabanel, dans la parashat Kitetsé, à propos du Gilgoul, il fait tout un débat là-dessus. D'accord ?
Où est-ce qu'il faut se référer ?
Ah ben, je reprends depuis le début. Prenez donc dans Rabbeinu Saadia Gaon, dans Imunot Bedeot, dans Sha'ar HaGmoul, là-bas, il y a tout un débat contre le Gilgoul. Vous trouverez ça également dans le Shelot Utshuvot Ma'ar Albar, Morenu Harav, Rabbi Levi Ibn Haviv, Ma'ar Albar, Siman Chet. Et vous trouverez ça également dans Rabbeinu Yitzhak Avrabanel, dans le débat qu'il instaure dans Parashat Kitetsé, dans son commentaire sur la Parashat du Yiboum. Dans Kitetsé, sur le Yiboum, là-bas, à la fin de la Parashat, vous avez toute la Parashat du Yiboum. Et là-bas, il y a tout un débat de Rabbi Yitzhak Avrabanel, d'ailleurs, qui défend le Yiboum. Il accepte. Contre eux, ceux qui ne sont pas d'accord. Vous voyez donc,
c'est le
Lévira. C'est ça, voilà. Alors là-bas, par exemple, Rabbi Yitzhak Avrabanel affirme qu'on ne peut pas comprendre le Yiboum si on n'admet pas le Gilgoul, par exemple.
Lui, il est pour,
mais il y a tout un débat. Vous avez qu'à voir, d'ailleurs, dans le livre Nishmat Chaim de Rabbeinu Menaché Ben Israël, il y avait plusieurs débats également autour du Gilgoul. Voilà. Vous avez fait exprès. Bon. Donc, en tout cas, donc, pour les Mekoubalim, je reviens à notre idée. Vous savez, c'est une âme qui l'appelle d'un guilgoul extérieur.
Oui, c'est, ça. C'est la pub de...
C'est un guilgoul de Tunisie.
Ah, pas vrai. Oui.
Mais moi, j'y crois fermement.
Oui, donc je vais vous dire la vérité pour ce qui est de la Tunisie. J'ai enseigné aujourd'hui à des élèves israéliens qu'est-ce que c'est que Saint-Louis. Pourquoi est-ce que Louis IX était appelé saint? Il est appelé saint parce qu'il a tué des juifs. C'est-à-dire, quand quelqu'un tue beaucoup de juifs, on le considère comme saint chez les goyims. Et j'ai raconté comment il est mort. Il est mort à Tunis. Vous savez que Louis IX, il est mort à Tunis. Alors, ce qu'on apprend dans l'histoire de France, c'est qu'il est mort de la peste. Mais c'est totalement faux, à mon avis. Il a dû mourir de Pkeïla, mais il ne savait pas expliquer ce que c'était. On lui a dit, tu reveux, allez, reprends. Il ne pouvait pas refuser. Voilà. Bon, mais enfin, ça, c'était simplement à cause de l'histoire de Gilgul Tunis. Maintenant, on va reprendre notre histoire. Donc, je reprends, d'après les Mekoubalim, quand on dit « Ve'elu she'enlaim chelek la'olam haba », donc, ceux qui n'ont pas part à l'olam haba, ils n'y ont pas part une fois, mais on va les obliger, ils vont avoir part. Et en fait, c'est très grave, cette histoire-là, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on est fils du peuple juif, alors il y a un destin qui vous colle à la peau. C'est-à-dire, chez les nations, à la limite, si quelqu'un ne veut pas l'olam haba, on ne l'oblige pas. C'est-à-dire, s'il refuse, je ne veux pas du Olam Haba. Bon, ça va, mon fils, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas de problème. Mais chez les enfants d'Israël, il y a un destin qui fait que l'on est obligé d'être méritant. Alors, on est coincé. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est si dur d'être juif. Je explique. D'accord? Donc, c'est ça, le Ve'elou Shenem Chalek Olam Haba. Et on avait vu que dans la liste de ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, le premier dans la liste, c'était Ha'omer et Tichiyat Amiti Minatora, c'est celui qui affirme qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Oui, c'est celui qui nie la résurrection des morts. Alors, vous étiez la semaine dernière, n'est-ce pas ?